Ambiance sirène, uniforme impeccable. Nous sommes à la caserne des pompiers de Persan. Un lieu où le courage, la solidarité et l'engagement se vivent au quotidien. Ici, chaque minute compte, chaque intervention peut sauver une vie. Dans ce reportage au cœur de la ville Persan, nous allons découvrir l'envers du décor. La formation, les missions, mais aussi la passion qui anime ces femmes et ces hommes dévoués au service de tous. Rencontre avec celles et ceux qui veillent jour et nuit sur la sécurité des habitants du Val d'Oise.
Bienvenue au centre de secours de Persan. On va commencer déjà un endroit stratégique pour le centre de secours, c'est le standard. C'est l'endroit où on réceptionne l'ensemble des alertes. Quand vous composez le 18 ou le 112, vous avez des opérateurs au centre opérationnel départemental et qui relaient après les interventions au niveau des centres de secours en fonction justement des adresses. Vous avez le standard ici où nous réceptionnons les alertes pour les interventions. Alors en 2024, nous avons réalisé 1359 interventions, ce qui donne à peu près un peu moins de 4 interventions par jour pour le centre de secours de Persan. Quand vous contactez le 18 ou le 112, vous avez des opérateurs qui vous répondent, qui qualifient l'intervention, l'urgence, et en fonction de différents critères, les secours sont déclenchés soit dans les casernes, soit sur d'autres services de secours, ça peut être la gendarmerie, la police, le SAMU ou d'autres acteurs. Tout est qualifié au niveau du centre opérationnel départemental. Les interventions les plus fréquentes, c'est une répartition qui est à peu près générale, on va dire nationale, mais aujourd'hui c'est 79% de nos interventions concernent le secours à victimes. Après voilà, on a 8% d'interventions qui concernent l'incendie. Le reste, donc soit de l'accident sur voie publique ou des interventions diverses, voilà, se correspondent au reste de la répartition. Mais notre grosse majorité d'interventions concernent le secours à victimes. Au centre de secours de Persan, nous avons un effectif de 40 pompiers volontaires et un effectif de 12 sapeurs-pompiers professionnels. Dans cet effectif de sapeurs-pompiers au global, nous avons 11 femmes qui composent le centre de secours de Persan. Alors, elles effectuent toutes les missions du centre de secours, hein, au même titre que les hommes. C'est une répartition qui se fait en fonction des gardes, hein, donc il n'y a pas de différence aujourd'hui entre un engagement d'un personnel féminin et un personnel masculin. Voilà, c'est exactement les mêmes missions en fonction des piquets qui sont affectés par jour de garde. La journée type est la même. On peut malgré tout évoquer la possibilité de faire des missions, ce qu'on appelle les missions différenciées. Hein. Aujourd'hui, on a des sapeurs-pompiers qui souhaitent plutôt se diriger vers des missions uniquement de secours à victimes. Et dans ce cas-là, ce qu'on appelle c'est des missions, on va dire, uniques. Par exemple, sur le centre de secours de Persan, on a deux personnels qui sont destinés à faire que du secours à victimes, mais sinon voilà, l'affectation des piquets ne change pas et ne varie pas en fonction des différents profils qu'on peut avoir. On poursuit. La remise, c'est un grand garage qui nous permet de mettre nos véhicules à l'abri des intempéries, mais aussi qui nous permet d'avoir des véhicules qui sont branchés parce qu'on a besoin d'électricité pour charger du matériel à bord. C'est ce qu'on appelle effectivement la remise chez les pompiers. On a 6 véhicules au centre de secours de Persan. On a le véhicule de secours et de soins d'urgence aux personnes, typiquement voilà l'ambulance hein, pour le commun des mortels. Et donc c'est avec ce véhicule-là qu'on intervient le plus souvent hein, sur le secteur. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, 79% de nos interventions sont réalisées avec ce véhicule. Ensuite, nous avons le fourgon Compton, un véhicule qui nous permet d'intervenir sur les feux urbains. L'avantage de ce véhicule, en tout cas, une des caractéristiques, c'est qu'il permet d'acheminer des hommes et de l'eau sur les interventions. Là, on va s'en servir pour tout ce qui est feu d'habitation, feu de maison, feu d'appartement, feu de véhicule, feu de mobilier urbain, etc. Donc voilà, c'est un véhicule qui est assez complet. Alors à peu près 3000 litres d'eau hein, sur un véhicule de ce type-là, complété par 200 litres d'émulseur. Alors l'émulseur, c'est ce qui nous permet de faire de la mousse en complément. Ça nous permet donc d'acheminer ça. Et puis des hommes, hein, on est à 6 hommes dans ce véhicule. Un conducteur, un chef d'agrès, ce qu'on appelle le chef d'agrès, hein, celui qui va coordonner les missions, et 2 binômes à l'arrière. Voilà. Nos journées de garde sont assez rythmées, et notamment dans ce rythme de journée, dans cette planification, on a ce qu'on appelle la vérification quotidienne, journalière. Tous les matins, à chaque prise de garde en tout cas, les véhicules sont vérifiés, le matériel également, le personnel prend connaissance de son matériel, vérifie voilà, l'ensemble des matériels à sa disposition, à la fois pour contrôler la présence, le bon état, mais aussi pour se rappeler les gestes et de pas perdre les réflexes. J'ai commencé par les jeunes sapeurs-pompiers à l'âge de 13 ans, à la fois sur une envie soudaine, mais aussi le fait d'avoir été baigné dans le monde des pompiers par les liens familiaux. Ça s'est fait assez jeune, et puis mon parcours m'a amené jusqu'ici, hein, pompier volontaire, pompier professionnel. Il faut avoir une volonté de servir les autres, une forme d'altruisme, de dévouement aussi, quelque chose qui est axé plus sur les autres. Je pense que c'est la base d'un engagement chez les pompiers. On travaille constamment en équipe, hein. Aujourd'hui, par exemple, sur le centre de secours de Persan, vous avez une équipe de 6 personnes qui vont travailler ensemble, soit sur des créneaux de 12 heures, soit sur des créneaux de 24 heures. Ça renforce les liens, il y a de la cohésion qu'il faut avoir, de l'entraide, ça c'est pareil, hein. Ça fait partie des qualités des pompiers. C'est un travail d'équipe qui repose aussi sur le fait qu'on travaille quasiment tout le temps en équipe sur nos interventions. On recrute tout au long de l'année, hein, sur les pompiers volontaires. Il faut être déjà motivé, hein, par, comme je vous disais tout à l'heure, hein, motivé par le fait de vouloir aider les autres, aider son prochain, vouloir aussi donner de son temps, de pouvoir être en capacité de se surpasser de temps en temps, mais surtout d'être disponible et volontaire pour aider l'autre. Ça, c'est les grandes qualités. Après, bon, il faut être un minima sportif aussi, mais le pompier n'est pas un super-héros. C'est quelqu'un qui est disponible, qui a envie. Et à partir de là, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Concernant sur la partie recrutement, donc oui, on recrute toute l'année. Il faut avoir une condition physique minimum, on va dire. Mais voilà, encore une fois, rien n'est impossible. Lorsque vous avez envie d'être pompier volontaire, vous avez la possibilité de soit contacter directement le centre de secours, mais il est préférable de passer par le site du 10-95. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez être redirigé vers un centre de secours. Donc typiquement, après, le chemin, c'est une prise de contact avec le centre de secours. Il y a un entretien qui va être passé, il y a des tests de sport qui vont être également à réaliser. L'idée, c'est de faire un premier point d'étape, d'accompagner les gens. S'il y a vraiment une motivation, on va pouvoir aider les gens, les suivre éventuellement, mais surtout pouvoir donner une deuxième ou une troisième chance. Rien n'est définitif si toutefois, la première fois, on n'a pas réalisé les performances attendues. Alors un pompier, il a en matériel spécifiquement pour les feux urbains et en termes de protection, hein, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'ARI, l'appareil respiratoire isolant, hein, ce qui permet à l'ensemble des pompiers d'être protégés des fumées, hein, notamment, hein, c'est ce qui tue énormément dans les incendies. Donc protéger des fumées, des atmosphères toxiques. Ça peut être aussi des produits chimiques, etc. Donc voilà, ça c'est l'équipement de protection respiratoire. Et puis après ça, le pompier va être, s'il part sur un incendie, le pompier va être équipé de tuyaux, de lances. C'est à peu près l'équipement du pompier de base, hein, c'est à peu près une vingtaine de kilos, hein, entre le matériel de protection respiratoire, les tuyaux sur chaque pompier, voilà, donc c'est à peu près entre, on va pouvoir dire, voilà, à peu près un peu moins de 20 kilos, 16 kilos à peu près sur le pompier, vraiment tout équipé au départ. Donc ça, c'est un peu l'équipement de base du pompier qui va au feu. L'appareil respiratoire, les tuyaux, la lance vont lui permettre d'établir, voilà, de poursuivre sa mission qui lui ont été confiées. Chaque matin, voilà, vous avez ce qu'on appelle des inventaires, hein, par poste. Chaque pompier vérifie le matériel. Et parfois, le soir, si les équipes changent, à 19h, à chaque prise de garde, le pompier vérifie son matériel, la présence et le bon état de fonctionnement. On essaye de maintenir une rigueur. Voilà, il faut pas perdre de temps sur les missions. On nous attend sur des missions de sauvetage, de secours à victimes. On essaie d'être rigoureux pour pouvoir répondre de la meilleure manière à la mission qui nous sont confiées. Voilà. Notre préparation opérationnelle inclut le sport, en tout cas l'activité physique et sportive. Tous les jours, nous avons une heure le matin et une heure en fin de journée. Voilà. Et après, la préparation mentale, bon, c'est la préparation qui se fait au quotidien. C'est aussi là qu'on voit le travail d'équipe, hein, le fait d'échanger beaucoup sur les interventions, de se préparer à la mission. Mais un bon entraînement permet d'aborder des missions de manière plus sereine. Ce véhicule est une échelle, typiquement à grande échelle des sapeurs-pompiers, hein, qui nous permet de réaliser des sauvetages, des missions d'extinction ou de brancardage, hein, mission un peu auxiliaire secondaire, on va dire. Ce véhicule est destiné à faire essentiellement des sauvetages, des mises en sécurité et de l'extinction sur des feux d'appartement, des évacuations, etc. Donc là, ce véhicule va nous permettre de réaliser ce type de mission. Voilà, tout ça s'imbrique dans un schéma, si vous voulez, d'organisation, d'intervention qui permet de réaliser des missions qui sont quand même complémentaires. C'est un véhicule qui peut à la fois servir l'été ou l'hiver. Hein. On est plus sur des interventions sur habitation ou sur du risque industriel ou particulier. Donc voilà, sur ce véhicule-là, il n'y a pas forcément de saisonnalité. Alors ensuite, vous avez le véhicule tout usage hein, qui nous permet... alors là, c'est pour les missions... d'épuisement, d'assèchement, dégagement de route si un arbre est tombé sur la voie publique. Voilà, donc ça c'est toutes les missions un peu diverses qu'on peut réaliser en complément des autres interventions qu'on réalise au quotidien. Le premier mercredi de chaque mois, hein, vous avez un test qui est fait, hein, c'est pour l'alerte à la population. C'est pour vérifier que finalement l'ensemble des systèmes fonctionne bien. En cas de catastrophe, sinistre important, c'est la sirène qui sera activé pour informer la population. Sur l'appareil respiratoire isolant, ce sont des bouteilles d'air comprimé finalement qui nous permettent d'être isolés de l'air extérieur. Donc ça se branche sur les appareils que vous avez vus tout à l'heure. Et donc ça vient comme un peu une bouteille de plongée finalement, apporter de l'air sain au porteur pour qu'il puisse être protégé de l'air extérieur et donc des fumées en cas de déplacement dans les fumées d'incendie, etc. Et là, tout à l'heure vous l'avez vu sur ce qu'on appelle les dossards, c'est ce qui va être porté comme un sac à dos finalement par le pompier. Pour la préparation opérationnelle, ça fait partie aussi de l'activité des pompiers. Chaque jour, on a la possibilité d'avoir accès à la salle de cours, hein, salle de cours ou salle de réunion, qui nous permet de réaliser des gestes de secourisme, de revoir des techniques opérationnelles, plutôt sur la phase effectivement théorie, mais ça nous permet d'aborder différentes situations, différents textes, qui nous permettent de recadrer un petit peu les différentes possibilités d'intervention, etc., etc. L'équipage peut discuter ensemble des interventions, hein, c'est comme ça qu'on réalise... nos petits diffusings, si vous voulez, ensemble discuter un peu des situations compliquées. Si effectivement ça passe un cap, on a un service médical qui est présent avec des psychologues. À ce moment-là, il y a un suivi médical qui est mis en place, toute une organisation qui est mise en place pour que le pompier ne reste pas avec des situations compliquées à gérer après les interventions marquantes. Aujourd'hui, les mentalités changent aussi, hein, les gens communiquent davantage et discutent beaucoup plus. Effectivement, le pompier n'est pas un super-héros, il est perçu comme tel par rapport à nos missions et à notre façon de servir. Maintenant, effectivement, on n'est pas super-héros. Peut-être qu'il y a peut-être un supplément d'âme parfois à avoir. Mais malgré tout, l'engagement est possible s'il y a une volonté de servir les autres. Alors, on a une salle de repos, effectivement, hein, parce que nos personnels sont de garde 12 heures ou 24 heures, qui nous permettent de pouvoir se reposer, se détendre, justement, d'avoir ces moments de complicité avec les équipes, qui peuvent nous permettre de forger cette cohésion, en tout cas de la maintenir. Le pompier, quand il n'est pas en intervention, en dehors du sport, c'est un pompier qui prépare les interventions, donc une partie organisation des secours, où ce bureau va gérer l'ensemble des plans, toute la préparation opérationnelle, mais également la défense extérieure contre l'incendie, donc les poteaux incendie, les bouches d'incendie, c'est toute la partie préparation opérationnelle liée à la préparation du matériel, l'entretien du matériel, hein, donc on a un bureau qui est dédié à ça, que ce soit du matériel de secours à victimes, mais également du matériel roulant, hein, et infrastructure, donc ça, on a un bureau qui s'occupe de ça, donc on a des pompiers tous les jours qui s'occupent de l'entretien et de l'infrastructure au quotidien. Ensuite, on a une grosse partie, c'est notre planification, administration des personnels avec le bureau également formation, où là on organise les journées de garde, les plannings, mais aussi la partie formation, parce qu'on a du personnel qu'on doit monter en compétences pour pouvoir répondre à nos missions au quotidien. Ça, c'est un enjeu pour nous, c'est la formation et la planification du personnel, parce qu'elles sont aussi garantes de notre bonne capacité à répondre à la sollicitation. Chaque intervention est suivie d'un rapport de sortie de secours qui permet aux usagers de pouvoir bénéficier d'une attestation en cas de besoin, mais surtout pour retracer notre intervention. Donc tout est consigné sur des rapports d'intervention. Nous avons 5 bureaux. On a également aujourd'hui une référente sapeur-pompier volontaire qui est en relation avec le binôme de commandement. On a un comité de centre qui permet d'avoir une représentativité du centre de secours. Et donc en plus de ces 5 bureaux, vous avez le bureau de l'adjoint au chef de centre et mon bureau également. La prévention est réalisée par un service, le service prévention du SDIS. Donc tout ce qui est établissement recevant du public, donc ça va être le service prévention. Malgré tout, voilà, on fait de la prévention, on va dire, citoyenne, notamment grâce à nos référents citoyenneté. Aujourd'hui, au centre de secours, nous avons 2 référents citoyenneté. Donc là, on parle de prévention citoyenne. Donc là, c'est plutôt de l'éducation à la sécurité civile, aux bons gestes à entreprendre. Voilà, donc toute une culture, si vous voulez, de prévention citoyenne qu'on essaye d'instaurer, de poursuivre et de développer alors sur le secteur de Persan, mais également sur le Val-d'Oise. Alors on essaye de répondre assez favorablement aux sollicitations scolaires, mais on peut intervenir également auprès des élus, des bailleurs sociaux, si vous voulez, tous les acteurs du territoire. On peut avoir une information à leur transmettre concernant la sécurité. Alors faut éviter d'avoir le vertige, hein, mais effectivement c'est une tour de manœuvre qui nous permet de nous exercer au quotidien, notamment avec l'échelle que vous avez vue, hein, mais avec aussi les échelles à main, échelle à coulisses ou échelle à crochet, hein, qui est réputée dans le monde des sapeurs-pompiers. Donc c'est cette petite appréhension qui des fois contrarie un peu les engagements, mais voilà, ça se travaille, et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, rien n'est définitif. Les gens qui sont pas forcément à l'aise avec les grandes hauteurs ou l'incendie peuvent toujours se diriger vers un profil exclusivement secours à victime, qui est moins engageant au niveau physique. Ça permet quand même de pouvoir exercer son engagement citoyen malgré, voilà, peut-être des appréhensions, notamment du vertige. Donc là, je vous présente la salle de sport, la salle d'activité physique et sportive, qui permet donc, voilà, aux pompiers de se préparer et de s'entretenir, hein. Alors aujourd'hui, on forme pas des super pompiers, mais en tout cas des pompiers avec une forme physique suffisante pour à la fois être en sécurité et à la fois pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées. Profondément humain, je pense que c'est vraiment le terme approprié. Exigeant, oui, parce que il faut qu'on ait une rigueur quand même dans notre façon d'être et façon d'agir. Il faut qu'il y ait cette rigueur pour continuer à offrir à la population un service de qualité. Alors un sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS, à peu près 7, un peu moins de 8 ans d'engagement. Après, bon, nous, on a la fierté d'avoir un agent chez nous qui est pompier volontaire depuis 40 ans cette année. Bon, c'est un engagement, je pense, qui est ancré en lui. C'est quelqu'un qui habite sur Persan. C'est une vocation qui est, pour l'instant, n'est pas éteinte. C'est tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Hein. On est fiers de l'avoir avec nous. C'est un exemple aussi à suivre d'engagement, hein. Comme quoi, malgré tous les changements qu'on peut avoir au cours de sa vie, on peut maintenir un engagement citoyen avec les sapeurs-pompiers volontaires. On a des gens qui sont pompiers volontaires depuis des années, qui ne souhaitent pas être pompiers professionnels parce qu'ils ont une activité professionnelle dans laquelle ils sont épanouis. Hein. Ça peut être, on a aujourd'hui des infirmières, des facteurs, on a des agents du secteur public ou privé. Malgré tout, on a la possibilité de passer des concours pour être pompier professionnel, qu'on soit pompier volontaire ou pas. Les concours sont ouverts à l'ensemble des personnes qui souhaitent s'investir chez pompiers.
À la caserne de Persan, le mot d'ordre, c'est l'engagement. Derrière chaque uniforme se cache une femme ou un homme animé par un même idéal. Protéger, secourir, sauver. C'est un métier exigeant, mais surtout profondément humain, où la solidarité n'est pas un slogan, mais une vocation.
Je m'appelle Willem, j'ai actuellement 24 ans, je suis pompier volontaire depuis maintenant un peu plus de 3 ans. J'ai été à l'armée en fait et je ne suis pas plus là-bas. Je me suis retrouvé ici par une amie à moi qui était pompier et je suis rentré ici et je me suis dit mais en fait c'est génial ce que je fais. J'étais dans la maçonnerie juste avant, j'ai fait pompier industriel aussi. C'est comme des agents de sécurité dans un grand site. J'étais à Poissy, à Stellantis, le grand site de construction de voitures, la grande usine. En fait, là-bas, c'est comme la sécurité incendie, plus évolué parce que c'est un très grand site, en fait. Donc, il faut des pompiers industriels, en fait. Généralement, je suis là au moins 2 voire 3 fois par semaine, sur des gardes de 12 heures, souvent 24 quand je peux. Par mois, ça doit faire plus de 100 heures par mois. L'incendie qu'on a eu à la mairie de Persan, on s'y attendait plus ou moins, on se préparait à que ça puisse bouger dans la nuit, donc on a appelé des renforts, on a appelé du monde et tout le monde a été présent et après c'est là où il y a eu beaucoup de personnes mobilisées et après en fait toute la nuit on a fait que de bouger, faire des feux de voiture par-ci, des feux de voiture par-là et le feu de la mairie à la fin. Je suis plutôt sportif, j'ai été plutôt sportif encore plus avant. Donc quand je suis rentré à l'armée, j'étais quand même assez bien sportif. Et après, l'entrée chez les pompiers est entre guillemets similaire. On n'a pas des tests comme au CIRFA, mais on a quand même du luc léger. C'est le même test qu'on fait à l'armée. On a un parcours qu'on fait ici aux pompiers qui est exclusif aux pompiers. Quand je suis arrivé ici, les gens ont su en fait m'intégrer, me faire prendre confiance en moi, entre guillemets. Après, le temps fait bien les choses. Ça reste quand même un défi personnel pour chacun, parce qu'on a quand même beaucoup, nous chez pompiers, je trouve, du dépassement de soi. C'est quelque chose de bête, mais être constamment en sport, enfin faire tout le temps du sport, bah nous on se motive entre nous, on doit toujours pousser plus, toujours faire mieux que la veille. Après en intervention c'est à peu près pareil, on voit des choses plutôt belles comme des choses un peu moins belles, et sur ces moments-là je trouve qu'on est plus qu'une équipe, on est, je dirais même limite, on est une deuxième famille en fait.
40 ans de service, 40 ans de dévouement et de fraternité. Aujourd'hui, nous dressons le portrait de Christophe, pompier volontaire depuis 4 décennies. Facteur de profession, il a toujours su allier son métier de terrain et sa vocation de secours. À la caserne, ses collègues le décrivent comme un homme discret, patient et profondément engagé. Pour mieux comprendre ce qu'il représente pour eux, nous tendons le micro à ceux qui partagent son quotidien.
Christophe Enbuis, j'ai 57 ans. Je suis pompier volontaire depuis 40 ans, persanais. J'ai commencé donc en 1985 à la caserne de Presles pendant 23 ans et j'ai continué donc sur Persan et toujours pompier actuellement depuis 17 ans sur Persan. Je suis adjudant-chef volontaire et j'ai eu l'occasion aussi d'être pompier de Paris à l'époque du service militaire. Il y a une quarantaine d'années, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'ordinateur avec les super jeux vidéo. J'habitais dans une petite commune du Val d'Oise, à Nerville-la-Forêt, où il y a très peu d'activités. Je voulais être utile, j'aime bien le côté sportif. Je pratique d'ailleurs toujours du vélo, à la poste et le week-end aussi de mon côté. J'ai allié les deux, le sport, l'aide à la population et l'activité qui m'a engagé et puis que j'ai poursuivi par la suite parce que ça me plaisait. J'avais un objectif, c'était faire un compte rond de 40 ans de pompier volontaire. L'année dernière, je me suis cassé la clavicule, non pas au travail de la poste en vélo, mais avec une activité de loisir. Je suis resté 5 semaines en convalescence à la maison et le manque d'activité m'a énormément manqué. Et je me suis dit, je suis pas encore prêt d'arrêter. Et bon, avec l'âge, en plus, je suis un petit peu favorisé, j'ai pas des piquets opérationnels de nuit. Qui me font intervenir à toute heure. On me met un petit peu sur des piquets opérationnels un petit peu plus reposants comme l'échelle ou le fourgon, l'activité de conducteur. Donc je me suis dit, ça va me permettre de continuer un petit peu. Encore quelques temps, je ne sais pas, je n'ai pas défini encore. Mais voilà, et puis les conducteurs à Persan sont très recherchés. Donc voilà, on rend service aussi grandement à la caserne de ce côté-là. J'ai une femme en or qui a accepté, parce que ce n'est pas toujours le cas des épouses qui acceptent le fait que son mari soit souvent absent. J'ai ce côté-là où j'ai la faculté d'allier les deux sans problème. Ça a toujours été. Il faut s'accorder des petits temps de récupération. Et puis, moi, ça m'a jamais posé de soucis parce qu'entre les activités de pompier, ceux de la poste, bon, il y a le côté formation aussi. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut essayer de réunir et ça m'a jamais posé de problème. Voilà, il suffit de s'organiser en fait. En général, j'ai 2 nuits de garde par semaine, donc ça démarre de 19h jusqu'à 7h le lendemain matin. Et à l'issue, j'enchaîne mon travail professionnel à la poste à partir de 7h30 jusqu'à 14h. Après, on nous dit souvent, mais comment vous faites la nuit, les pompiers, en fait, on n'est pas obligé de rester éveillé, hein, s'il n'y a pas d'intervention, on dort. De ce côté-là, c'est pas des nuits non plus où on doit rester éveillé toute toute la nuit et on se repose s'il n'y a pas d'intervention. Donc on arrive à se reposer avant notre travail professionnel. Il n'y a plus beaucoup de pompiers qui, en tant que volontaires, qui font une carrière aussi longue. Ça me fait vraiment plaisir d'être mis à l'honneur prochainement et c'est une reconnaissance que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça fait 17 ans à Persan, le restant c'était après. Là. Il y en a tous les jours des secrets, c'est un métier qui évolue et il faut se former en permanence. Et chaque intervention est différente et chaque jour est différent et rien n'est acquis. Voilà. On est dans une société plutôt individualiste. J'ai toujours pensé aux autres et rendre service, c'est mon quotidien. Et penser aux autres et pas qu'à vous et devenez sapeur-pompier volontaire pour vous épanouir complètement.
Eh ben moi c'est enchanté Olivier, je suis le responsable de la distribution du courrier sur la commune de Persan depuis 5 ou 6 ans, je travaille à la poste depuis un peu plus de 20 ans et donc j'ai la chance de partager le quotidien de la première partie professionnelle de Christophe depuis les années 2020.
Je m'appelle Steve, donc je suis collègue sapeur-pompier à la caserne de Persan de Christophe. Je suis à Persan moi depuis 3 ans et je partage un petit peu le quotidien de Christophe à la caserne au travers de ce que l'on vit en intervention et aussi au travers de la vie de caserne.
Lieutenant Alchemolac Benjamin, chef de centre des pompiers de Persan depuis presque un an et demi maintenant. On échange relativement souvent avec Christophe sur son engagement et donc il me paraissait important aujourd'hui de souligner celui-ci au travers votre média.
En tant que facteur, déjà, ce qui va caractériser Christophe, c'est premièrement sa longévité. Je suis rentré à la poste en 2004 et Christophe faisait déjà partie des murs. On est aujourd'hui un peu plus de 20 ans après et c'est toujours le même. Christophe, c'est un facteur qui est là tous les jours avec son sourire, avec sa rigueur, peut-être pour nous rappeler à tous qu'il est pompier et ça va nous donner à nous un petit peu plus de réconfort en sachant qu'on a quelqu'un qui est très professionnel sur le domaine de la santé et même dans le cadre de sa tournée, c'est quelqu'un qui est toujours capable d'agir, toujours à aller vers les autres et c'est très appréciable d'avoir un facteur et un agent comme Christophe.
Je qualifierais aussi Christophe de très engagé, très ponctuel, très constant. C'est une qualité évidemment nécessaire au métier, à l'activité de sapeur-pompier. C'est quelqu'un qui nous donne beaucoup de temps, qui consacre beaucoup de temps à la caserne et donc à la population du secteur pour porter secours. Et c'est quelqu'un de fiable. On est très content de partager ce métier avec Christophe.
Pompier volontaire, c'est l'engagement citoyen. Et j'ai envie de dire, voilà, pour résumer, Christophe est l'image de cet engagement citoyen, un plaisir de le côtoyer au quotidien, qui rappelle aussi pourquoi on pousse les murs des casernes. Je me rappelle très bien de mon arrivée au centre de secours. Et effectivement, il y a une constance dans le comportement et le caractère de Christophe. Quelqu'un qui est toujours accessible, de bonne humeur, à être disponible. Peu importe finalement les contraintes, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, donc c'est l'image que j'ai de Christophe. C'est un exemple pour beaucoup, à la fois dans la manière de s'engager, aussi dans le comportement à avoir en communauté, dans l'esprit de groupe. Christophe, c'est quelqu'un qui a connu, on en parlait juste avant l'émission, mais qui a connu de grandes évolutions dans notre profession. Et par rapport à l'histoire de notre profession et du centre de secours de Persan, je pense qu'effectivement c'est quelqu'un qui est aujourd'hui un repère, une boussole pour le centre de secours.
Maintenant, les années passant, on l'affecte principalement à un poste, quand on peut, de conduite d'engin. On recherche, comme il l'a dit, beaucoup de conducteurs au sein de nos casernes, des conducteurs poids lourds. Il prend pas mal de gardes la nuit, donc Christophe, c'est un petit peu un relais finalement entre les jeunes et les générations plus vieilles, où je reprends les mots que j'ai dit tout à l'heure, mais sa constance font qu'en fait c'est un peu un guide naturel, si vous voulez. Il est de bons conseils un petit peu sur tous les plans, au travers de son expérience opérationnelle et aussi son expérience de vie en général. Donc les jeunes l'écoutent et aussi, pour certains d'entre eux, on va dire, adoptent sa constance et on en est très content.
On a d'ailleurs un deuxième facteur sur Persan qui est pompier volontaire. Je pense, sans trop m'avancer, que l'exemple de Christophe a été pour cette personne peut-être un repère. En tout cas, ça a suscité chez lui une vocation. Et effectivement, Christophe est un exemple à suivre. Pour la caserne, Christophe, c'est quelqu'un qui est très engagé. Côté amical, typiquement le profil, on va dire, idéal du pompier, engagé au niveau d'associatif, engagé au niveau de son centre de secours, et soucieux voilà, du bien-être de chacun. Voilà.
Dans les couloirs de la caserne, le nom de Christophe évoque avant tout la passion du métier. Ses collègues disent de lui qu'il a un parcours exemplaire. 40 ans d'intervention, d'adrénaline, mais aussi de moments forts partagés en équipe. Et certains souvenirs restent gravés. Mais au-delà de l'uniforme, il y a aussi un homme du quotidien, facteur et pompier, toujours sur la route, toujours disponible. Aujourd'hui, il incarne une mémoire vivante de la caserne. Pour les plus jeunes, il est un repère, un exemple à suivre. Et alors que la caserne célèbre ses 40 ans d'engagement, l'émotion est palpable parmi ses camarades.
Alors on ne pourra pas tout dévoiler aujourd'hui. Ce qui est prévu, c'est une cérémonie du centre de secours de Persan qui aura lieu au mois de décembre. Où effectivement, une des belles choses, en tout cas ce qui va être mis en avant, c'est l'engagement de Christophe au travers cette cérémonie. Et on lui réserve très certainement beaucoup de surprises, hein, notamment avec ses collègues, ses amis. Et voilà. On a un moment fort pour le centre de secours et pour Christophe, c'est le 18 décembre pour la cérémonie. Et le reste, ce sera une surprise pour lui.
Bravo pour la longévité et pour la rigueur qu'il apporte. Et c'est réconfortant d'avoir le sourire sur toute une carrière, parce que là, on parle quand même de 40 années. Moi, j'en suis qu'à la moitié. Et en regardant Christophe, je me dis que si j'arrive à finir jusqu'à 40 ans comme lui, ce sera une fierté.
Et les pompiers volontaires, c'est 80% des pompiers en France. 80%, quand ils ont du temps de libre, s'investissent auprès des casernes et donc des citoyens pour leur porter secours. Christophe, c'est un petit peu un emblème chez les pompiers volontaires, puisqu'il a vraiment le profil type. Une longévité effectivement assez exceptionnelle. Du coup, un immense merci pour tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il apporte encore aujourd'hui, parce que c'est pas fini, comme il l'a dit. On le remercie infiniment.
C'est un honneur d'avoir des gens comme lui dans un centre de secours. On a réussi à le garder encore. Il a réussi le contrat, on est au-delà des 40 ans. On a réussi à le garder, j'espère que on va le côtoyer encore de nombreux mois dans notre centre de secours. J'ai eu à côtoyer dans un ancien centre de secours un pompier volontaire qui a fait effectivement 40 ans de service également. C'est chose qui est très rare, hein, la moyenne de l'engagement. Et puisque c'est rare et qu'il faut le souligner, voilà, c'est pas rien de côtoyer des gens qui effectivement ont passé une grande partie de leur vie et de leur carrière à s'engager pour les autres. Donc n'hésitez pas à pousser les portes des centres de secours. On recherche de manière quotidienne des personnes pour renforcer les centres de secours.
Et ben moi, la petite anecdote, c'est voilà de... d'intervenir chez une dame un petit peu âgée qui avait besoin d'être relevée. Et elle nous dit « Vous connaissez Christophe ?» On lui dit « Bah oui, on connaît Christophe, c'est notre collègue. » Elle nous dit « C'est mon voisin, il est très gentil et je sais que ça fait longtemps qu'il est pompier volontaire. » Donc Christophe, c'est un petit peu, je vais pas dire une star, mais un petit personnage communal, parce que les gens le connaissent sur plusieurs aspects. Son aspect de facteur où il a un lien avec la population quotidien, et son aspect aussi de pompier. Christophe, c'est une figure locale. Pour le définir correctement.
Christophe, c'est le café cafetière le matin à 7h, ou avant 7h, hein, c'est la tradition chez Christophe. Christophe, c'est également quelqu'un qui a fait Persan Dieppe.
En vélo.
En vélo, ouais. Avec une équipe de la caserne de Persan, dans une partie associative, non obligatoire, non imposée, mais dans l'esprit de groupe, Christophe a mené aussi ce groupe vers Dieppe, donc ça c'était un engagement. Christophe, c'est des interventions quotidiennes qui font de lui quelqu'un d'engagé, pas un super-héros, mais quelqu'un de très engagé, et une intervention peut-être marquante, un feu à proximité du secteur de Persan, où il est intervenu en tant qu'échelier, où ces actions ont conduit à la réussite de la mission. Christophe, c'est tout ça.
Dans toute entreprise, on a très souvent des exercices en cas de problème ou en cas d'incendie. Et nous, on a la chance d'avoir Christophe dans nos murs 6 jours sur 7, presque tous les jours de l'année. Et à chaque fois qu'on a un exercice de ce type-là, tous ceux qui viennent nous auditionner sont particulièrement surpris par la fluidité et la manière dont les choses sont conduites. Et c'est pas moi qui les conduis forcément. On a toujours l'appui de Christophe pour ça. Et on est dans un métier qui évolue, une société qui évolue très très vite, surtout dans le coin démographiquement et le courrier qui est en chute libre. Donc on doit s'adapter. On sait que c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile pour les personnes qui ont de longues carrières et de longues habitudes. Mais Christophe, c'est quelqu'un qui va prendre les choses en avant. Je pense que c'est très très rare de tomber sur quelqu'un qui a une carrière si longue et qui est capable de prendre les devants comme ça, qui a déjà fait plus de 2 fois le tour de la Terre en vélo. juste dans son activité professionnelle et qui arrive encore tous les jours à le refaire encore, encore et encore. Donc ça, pour moi, c'est une anecdote de carrière.
Merci d'avoir pu libérer Christophe, même quand des fois c'est un peu à l'improviste, parce que des fois Christophe c'est notre joker, et on sait qu'il va répondre présent, mais on sait que derrière tout ça, voilà, l'engagement de son épouse et de ses enfants, et la tolérance par rapport à l'engagement qu'on lui demande, ont été pleinement pris en compte. Merci à la famille de Christophe, et merci encore à Christophe d'être parmi nous.
Personnel, prenez soin de vous, n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous, on est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Au fil des témoignages se dessine le portrait d'un homme fidèle à ses valeurs, passionné par le service public et profondément attaché à sa commune. 40 ans d'engagement, c'est une vie consacrée aux autres, dans la rue, sur le terrain ou au cœur des interventions. Christophe incarne la solidarité, la persévérance et l'esprit du volontariat. Ces qualités qui font la force et la beauté des sapeurs-pompiers de France. Et nous terminons à présent ce magazine avec une rubrique prévention. Comment réagir au départ d'un feu ?
Il y a très très peu de feux en France qui sont mortels. Néanmoins, il y en a malheureusement. Ces derniers ont lieu particulièrement la nuit. La nuit à cause d'une mauvaise détection. Finalement, on est dans le sommeil. Donc on ne se rend pas compte qu'il y a un départ de feu dans une pièce ou une autre du domicile. On est surpris et de là, on a des actions qui sont parfois très aléatoires. Donc le premier des conseils qu'on puisse donner à tout le monde finalement, c'est de s'équiper de détecteurs dans chaque pièce d'un logement au mieux. Si le feu démarre dans la cuisine, c'est bien d'avoir un détecteur dans la cuisine. Néanmoins, ce qu'on constate parfois, c'est que lié aux fumées de cuisson, les gens l'éloignent de la cuisine, le mettent effectivement dans un couloir, une pièce assez centrale de la maison. Sauf que finalement, le rôle du détecteur, c'est de réveiller les personnes. En pleine journée, vous allez probablement sentir l'odeur, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez prendre, on va dire, des mesures pour échapper à la situation que vous ne pourrez probablement pas prendre la nuit. Si vous dormez les portes ouvertes ou fermées, la plupart des gens dorment les portes fermées, donc on n'entendra peut-être pas au début le détecteur, ou alors, quand bien même on l'entende, on ouvre la porte, on prend une bouffée de fumée, et c'est là que les problèmes arrivent. La meilleure des choses à faire, à mon sens, si un feu démarre dans une chambre, ça peut arriver, c'est d'avoir un détecteur dans chaque pièce, parce qu'en fait, il est votre ange gardien pendant que vous dormez, tout simplement. S'il est dans un couloir et que votre feu démarre dans le garage, il est possible que le feu soit bien, bien développé, admettons, dans le garage, si c'est là qu'il a débuté, avant que celui qui est situé, donc peut-être plus loin dans la maison, se déclenche. Donc dès qu'on l'entend, effectivement, c'est aller faire une levée de doute. Le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens, c'est de ne jamais traverser les fumées. Quoi qu'il arrive, c'est pas finalement le feu qui tue les gens, c'est les fumées asphyxiantes. Malheureusement, hein, la mortalité des incendies nous fait rendre compte que les gens sont rarement à la source du feu. Quand on les retrouve, ils sont plus souvent sur un chemin finalement des fumées qu'au contact du feu. On peut presque faire un petit jeu imaginaire. Vous êtes en pleine journée, vous faites cuire quelque chose dans votre cuisine, admettons. Tout se passe bien, il y a un livreur qui vient, il vous rapporte votre colis, c'est super, vous êtes heureux, vous ouvrez votre colis, tout ça. Vous revenez dans votre cuisine 5 minutes plus tard, vous vous rendez compte qu'il y a un nid de frelon dans votre cuisine. Là, tout de suite, je vous donne quelques secondes. Qu'est-ce que vous faites du nid de frelon ? Vous avez un insecticide, une bombe insecticide à domicile. Qu'est-ce que vous faites ? Deux possibilités. Soit on confine, soit on évacue. On évacue, et nous, c'est ce qu'on fait en tant que sapeurs-pompiers quand on intervient dans des bâtiments d'habitation. Alors, sur un pavillon, en général, les gens sont sortis. Sur un bâtiment d'habitation collectif, donc les gens de l'appartement sinistré vont en général sortir. Ou alors, se confiner dans une pièce, attendre dans une pièce bien étanche en fermant les portes, et nous attendre à une fenêtre, et on viendra les sortir au moyen d'échelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la fuite n'est pas possible parce qu'il y a trop de fumée, eh ben on reste cloisonné. Si vos voisins ont appelé, tant mieux pour vous. Mais nous, il faut qu'on sache où quelqu'un qui n'aurait pas pu sortir est situé pour pouvoir aller le chercher au plus vite. Lorsqu'on se rend compte effectivement dans son logement qu'il y a un départ de feu, nous, on vous recommandera de ne pas intervenir dessus. Jamais. Le mieux, vous fermez la porte du local sinistré, vous faites sortir effectivement tout le monde et vous nous appelez. Parce qu'on constate que dans la majorité des cas, quand les gens essaient d'intervenir sur leurs incendies, ils font plus de dégâts que s'ils n'avaient pas essayé de le faire finalement. Un feu qui se cantonne à une pièce d'un domicile, c'est pas forcément extrêmement grave finalement. C'est peut-être le prix d'une cuisine, c'est peut-être le prix d'une chambre. C'est pas comparable au prix d'une vie.
L'idée, hein, c'est de casser des croyances et des actions qui pourraient être malheureuses en voulant intervenir sur quelque chose qui a pris trop d'ampleur. Enfin, on est vraiment sur la préservation de la vie humaine dans les différentes actions qui sont proposées. Hein. Vous avez le feu chez vous, l'idée c'est de cloisonner le feu pour éviter qu'il ait finalement des apports d'air qui vont poursuivre, enfin le faire développer, et de faire donc fermer les portes et vous enfuir et donner une alerte qui est la plus rapide possible.
La fenêtre de la salle de bain n'est pas la plus grande en général, et nous on a besoin d'accessibilité. La meilleure des pièces, c'est celle où il y aura pas ou le moins de fumée possible, et celle où on verra le mieux, finalement. Le déclenchement d'un feu laisse peu de temps à la réflexion. C'est pour ça que je prenais l'exemple du nid de frelon. Les insectes, finalement, c'est eux qui vont vous attaquer. Ils vont avoir un effet de masse, comme la fumée va l'avoir avec vous, vous désorienter. Donc c'est pour ça qu'il faut la fuir et se mettre dans l'endroit le plus accessible si votre couloir ou votre cage d'escalier est rempli de fumée aussi, parce que donc il y a un feu qui, vous habitez un appartement, il y a un feu qui se déclare chez votre voisin d'en face, quand bien même la fumée se dégagerait beaucoup dans la cage d'escalier, vous fermez la porte de votre domicile, vous attendez à la fenêtre, ça vous laisse tout au moins une bonne heure à nous attendre, sachant qu'on interviendra bien avant une heure, donc vous êtes peut-être pas à 100% en sécurité, mais en tout cas beaucoup plus que si vous tentez d'échapper par un endroit où il y a des fumées. On a des procédures, on va dire, qui sont toujours finalement les mêmes. L'enjeu principal, déjà, c'est le sauvetage de la vie humaine. Et l'enjeu secondaire, c'est d'intervenir effectivement sur la source. Dès l'instant qu'on sait que la vie humaine est préservée, on va dire, on se laissera un petit peu plus de temps d'analyse pour aller éteindre le feu. C'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de vivant finalement, un incendie. On prendra toutes les précautions nécessaires et on emploiera tout ce qu'on a pour prendre le moins de risques possible.
Quand on évoque un détecteur par logement, effectivement on est sur une base réglementaire qui arrive à ces 10 ans. En termes de prévention hein, et de conseils, vous le voyez certainement également dans les différents médias, l'importance et la multiplication des appareils avec les batteries au lithium dans les appartements. Et face à ça, il faut avoir une détection la plus précoce possible pour qu'on puisse effectivement quitter son logement si on est concerné par le feu, et en tout cas être averti voilà en cas de départ de feu qui est avec des feux qui sont avec des progressions très rapides. Il faut avoir une détection vraiment très précoce par rapport à ces départs de feu.
On peut même prendre l'exemple du lion, hein. Vous êtes dans votre chambre, vous sortez, vous voyez un lion dans le couloir. On sait tous qu'il y a un risque mortel en présence d'un lion. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de lui passer au-dessus, sans savoir finalement si vous arriverez dans la cage d'escalier? Ou est-ce que vous re-rentrez dans votre chambre en fermant la porte et que vous nous appelez en nous attendant derrière la fenêtre? Moi, personnellement, je sais quelle option je choisirais. Je resterai dans la chambre, j'attendrai mes collègues. Et finalement, c'est tout à fait ça. Un feu, c'est une analyse rapide. Les fumées sont dangereuses, mortelles. Y a des gaz dans les fumées qui peuvent vous rendre inconscient. Je rebondis notamment sur la trottinette électrique qui, on le voit de plus en plus, charge la nuit dans le couloir derrière la porte d'entrée du logement. S'il vous plaît, chargez-la de préférence la journée et dans un endroit, on va dire, dans une pièce au mieux fermée où il n'y a personne d'autre, où il n'y a pas de présence humaine finalement. C'est des phénomènes qu'on voit de plus en plus. Je suis intervenu à 5h du matin pour un feu de trottinette qui avait démarré dans la chambre d'un ado. Son père, heureusement, a eu le bon réflexe de jeter la trottinette par la fenêtre. Il s'est brûlé au passage, il a sauvé sa maison, il s'est brûlé le bras, mais il a évité des dégâts. Ce qui a un petit peu sauvé l'adolescent, c'est qu'il dormait pas. À 4h ou 5h du matin, il était réveillé, et donc il a senti qu'il se passait quelque chose sur la trottinette. Il est sorti vite de sa chambre, il a réveillé ses parents, et tout s'est à peu près bien terminé. Mais en tout cas, voilà, le premier conseil, on ne charge pas de trottinette électrique la nuit. Faut se méfier aussi des téléphones. Je dirais pas qu'il faut pas le faire parce que je sais que tout le monde le fait, mais en tout cas, faut prévoir que les choses peuvent mal tourner. Donc avoir des détections, et si toutefois il y a une détection et que je peux pas fuir de mon logement, eh ben je m'extrais de ce qui peut me tuer, donc la fumée, et j'attends les secours. Mais si vous respirez 2-3 bouffées de fumée vraiment très chargée, vous allez tomber inconscient, vous serez plus maître de quoi que ce soit, votre cerveau va se mettre en off, vous serez incapable d'intervenir. Et finalement, jusqu'à temps que les gaz remplissent vos poumons, vous allez probablement succomber. Alors que, quand on se brûle avec une flamme, on a mal, on est brûlé, mais on est toujours conscient, quoi. Si on mélange les deux, là, les choses se compliquent. Chaque situation est différente, mais le conseil le plus précieux qu'on puisse donner, éloignez-vous des fumées, mettez-vous sur le rebord d'une fenêtre et attendez que nous venions vous chercher.
Le magazine Au cœur de la ville persan, consacré à la ville et à ses habitants, se termine. On vous remercie de l'avoir suivi. Il sera rediffusé ce dimanche à 14h et rendez-vous pour le prochain numéro jeudi 25 décembre à 19h.